Vous écoutez France Culture.
Alain Wetstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Claude Arnaud, qui publie Proust contre Cocteau chez Grasset. Les vies parallèles de Cocteau et de Proust me semblent révélatrices du cannibalisme régnant entre créateurs. Vous êtes biographe, essayiste, romancier, Claude Arnaud. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel ordre vous préféreriez que je le dise.
Il n'y a pas d'ordre pour moi, les genres se contaminent dans mon cas.
Alors le biographe, on lui doit la biographie de Champfort et également celle de Cocteau. 4 ans de recherche, un livre qui a été très remarqué, qui fait date aujourd'hui, que vous avez publié dans la collection des biographies de Gallimard. Pour les romans, je vais citer le tout dernier, puisque vous l'avez fait paraître l'an dernier, c'est « Bref saison au paradis ». Quant aux essais, il y en a un qui, dont le titre est bien intéressant, qui dit « Je en nous ». C'est un livre que vous avez publié chez Grasset en 2006, qui a été d'ailleurs salué par un grand prix, le prix Féminin de l'essai, qui a été réédité en poche dans la collection Pluriel, et c'est un essai sur le thème de l'identité. Un essai qui a dû compter aussi dans l'écriture du livre dont nous allons parler ce soir, Proust contre Cocteau, car le thème est évidemment très présent.
Oui, c'est sans doute un thème qui me poursuit ou que je suis de façon un peu récurrente, sinon obsessionnelle. C'est certainement un des enjeux très forts de cette relation, de cette espèce d'amitié amoureuse, en tout cas amitié passionnée, mais avec Proust tout devenait très vite passionné, qui a uni puis désuni Proust et Cocteau. C'est comment deux natures, je dirais, extrêmement riches, extrêmement centrifuges, c'est-à-dire qui avaient tendance à sortir d'elles-mêmes et avec des capacités de projection hors d'elles-mêmes et de d'empathie et de mimétisme extrêmement violente dans les cas et de Proust et de Cocteau, ont cherché une solution à travers la littérature pour consister. S'unifier dans le cas de Proust et au contraire dans le cas de Cocteau consister tout en jouant cette dispersion et même d'une certaine façon dans le cas de Cocteau en surjouant cette dispersion à travers une affirmation que je crois très moderne de la multiplicité de la division de soi. Voilà. Donc c'est évidemment une des trames, c'est pas la seule, mais je pense que c'est une trame très importante du livre. C'est comment d'un moi volatile, spongieux, large, flou, océanique, qui était celui vraiment, et là-dessus il se ressemble par beaucoup, beaucoup de traits, il y a une forme de gémellité que Proust souligne à plusieurs reprises. Comment on va tirer des œuvres en fait qui sont exactement aux antipodes, ce qui va aussi accélérer le divorce et puis la et une sorte d'hostilité, en tout cas de jalousie entre les deux hommes. Et les deux œuvres, d'une certaine façon, c'est deux œuvres qui divorcent avant même deux hommes et qui finissent par prendre des directions totalement opposées.
Ce qu'on peut souligner au départ, c'est que l'histoire du lien ou des liens entre ces deux hommes n'est pas tellement connue.
Non, elle est peu connue. Elle est peu connue. D'abord parce qu'ils n'ont pas l'air de, ils n'ont pas l'air d'être dans la même vie et la même époque. Il est sûr que Proust est encore un personnage du 19e siècle prolongé jusqu'en, il a duré jusqu'en 17-18 pour la plupart des historiens et des historiens de la civilisation et de la culture aussi. Cocteau est un homme, bon, qu'on commence à voir apparaître dans les années 20, donc dans une époque beaucoup plus moderne, bruyante. Il y a plein de films avec Cocteau, il n'y en a aucun avec Proust. Donc ils sont quand même deux mondes différents. En fait, il y a quand même 20 ans qui les séparent, mais il y a cette très grande proximité de sensibilité. Et Cocteau grandit et mûrit, si on peut dire, dans son cas, à la fin de la grande époque proustienne, c'est-à-dire de l'époque des salons, de l'époque de cette République des Ducs, avec, oui, où les personnages importants s'appellent Robert de Montesquieu, la comtesse de Chevigné ou la comtesse Greffule.
Alors évidemment, il y a une question qui va vite se poser, c'est pourquoi Proust occupe-t-il aujourd'hui et depuis longtemps une telle place dans le paysage littéraire, alors que Cocteau, lui, ne semble que le traverser. Et vous demandez si Proust aurait pu contribuer à nuire à son cadet.
Alors, il y a peut-être deux questions dans votre question. La première, pourquoi l'importance de Proust ? Je pense que l'importance de Proust, elle tient à cette œuvre absolument unique, à l'ambition colossale de cette œuvre, qui est à la fois une dimension personnelle, on pourra peut-être en discuter, para-autobiographique, auto-fictionnelle, on va tourner autour de ces définitions, mais pour aller vite, et en même temps encore une espèce de tentative à la Saint-Simon, qui était un des grands modèles de Proust, de rassemblement d'une époque et en tout cas d'une classe sociale à travers une intrigue qui, elle, commence évidemment à devenir extraordinairement, par moments insaisissable par rapport aux grands pattern du roman français du 19e siècle, qui était quand même aussi les grands modèles, entre autres à travers Balzac, de Proust. Je pense qu'il y a cette espèce de rassemblement, cette impression de, évidemment, de cathédrale, parce que lui-même n'a cessé d'employer le mot, qui, de toute façon, en impose par sa grandeur et par son ambition. Et à l'inverse, le projet de Cocteau, par ce mouvement moderne que j'ai essayé déjà de définir, de dispersion, d'éclatement, d'entreprise à très haut risque, d'épreuve de soi à travers des formes, des expressions artistiques différentes, joue un jeu qui est beaucoup plus expérimental, d'une façon, et sans doute beaucoup plus difficile à saisir pour le spectateur, le public ou le lecteur courant, disons. Je pense qu'il y a une deuxième élément qui entre beaucoup en ligne de compte, et le livre essaye aussi de travailler cette question, c'est que derrière l'entreprise fantastique de Proust, il y a aussi un sacrifice extrêmement violent, je dirais, qui est le sacrifice de sa vie, de sa personne, de son corps, de sa sexualité en un sens, de toute sa libido, de tout son désir de vivre, qui s'éteint quand le livre se termine. Et évidemment, il n'y a pas qu'une coïncidence dans cette concomitance. Et je pense que ce sacrifice qui donne à Proust une auréole sanctifiante place son œuvre forcément au-dessus de celle de Cocteau, pas seulement pour des raisons littéraires, mais aussi pour des raisons d'ordre, oui, qu'on peut dire quasi sacré. Il y a cet holocauste de soi qui est que Cocteau n'a jamais pratiqué, même si on peut dire qu'aussi le travail de Cocteau est phénoménal. Quand on regarde cette vie, ces 60 ans d'activité, de films, de poésie, de dessin, de théâtre, de création, il meurt épuisé, mais il a vécu beaucoup plus longtemps, et il a vécu, on peut dire qu'il a vécu. Il a aimé, il a été aimé, il a été haï, mais c'est la moindre des choses.
Donc, une certaine disproportion entre les œuvres, et pourtant Cocteau fut un écrivain que Proust a imité, a essayé d'imiter, a voulu imiter, dépasser, et puis en fin de compte, éliminer.
Oui. Alors bon, oui, c'est, vous résumez bien l'aspect, la dimension polémique du livre, ou éventuellement polémique du livre. Oui, le tout jeune Cocteau est extrêmement précoce, il est reconnu, salué à 19 ans pour ses tout premiers poèmes. Alors que Proust, à 40 ans, est toujours l'amateur et le procrastinateur qu'on connaît, qui est toujours en train de promettre un livre que personne ne voit venir, qui certes intervient ici ou là, fait des chroniques mondaines dans le Figaro, a écrit des pastiches. On le sait très, très exceptionnellement intelligent, mais on n'a toujours pas vu cette œuvre-là. Donc il y a une admiration indéniable à au tout départ de Proust pour Cocteau. C'est très clairement celui qui admire, qui est en demande et qui est, oui, comme ébloui par la vélocité, la précocité, la maîtrise aussi qu'a Cocteau de son style, alors que Proust, trouve son style pâteux, se prend les pinceaux lui-même dans ses phrases et les premières séances de lecture auxquelles Cocteau a eu droit à Bouvard-Haussmann étaient des séances. Je crois qu'on rit dans ces passages du livre parce que c'est des séances délirantes. Quoi. On ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. Et Proust lui-même n'est même pas sûr d'arriver au bout de son livre et n'est pas entièrement sûr d'y arriver. Donc l'admiration littéraire, il est clair qu'elle commence de la part de l'aîné envers le cadet. Et effectivement, Proust qui a un pouvoir mimétique monstrueux, dont il a longtemps souffert, on peut le dire, parce que c'est une souffrance à ce point-là, ne pouvait pas lire quelque chose sans vouloir immédiatement en imiter le style et la tournure. Et donc, ce qu'il faisait, qu'il disait Dostoïevski, il faisait après, pendant quelques semaines, du Dostoïevski. C'est extrêmement puissant. Donc, il lisait du Cocteau, et il faisait du Cocteau, comme il faisait plein d'autres. Évidemment, c'était certainement pas la seule personne. C'était aussi un jeu chez lui, parce qu'il y a une dimension ludique chez Proust, une dimension comique chez Proust, enfin, fantastique, très, très importante. Mais c'était aussi l'aveu d'une forme quand même d'admiration et d'un début d'emprise. Et effectivement, cette emprise, elle va évidemment s'inverser. Et plus Proust va aller profond dans l'exploration de lui-même et de son œuvre, et plus il va prendre ses distances avec la forme beaucoup plus brève que prennent les expressions artistiques de Cocteau.
Vous en arrivez d'ailleurs, Claude Arnaud, à vous poser la question de savoir si Proust a vraiment aimé Cocteau. Qu'il a été injuste avec lui.
Je pense qu'il a été injuste dans la dernière tiers de leur amitié, donc qui dure de 1910 à 1922. Injuste parce que je pense qu'à un moment donné, lui-même étant tellement soulagé, et puis je crois heureux à partir de 1919 et du prix Goncourt, d'avoir trouvé enfin la solution formelle, puisqu'il y a eu cette tentative de Jean Santeuil, qui était beaucoup plus autobiographique, qui n'avait pas marché, qui n'avait pas abouti. Donc il est tellement heureux quand enfin la recherche prend forme et tient, et solide, et résiste même à l'épreuve de la guerre, puisque pendant les 4 années de guerre, il n'y avait plus de publication. Donc il y a un retard complet dans le cycle d'impression, donc ce qui lui permet d'augmenter d'autant l'influence du temps sur ses personnages dans la recherche. Donc plus il prend confiance dans son projet littéraire, plus il se réalise, plus il sent bien qu'il est porté par une énergie énorme, plus les interventions que je qualifie d'un peu d'épileptiques de Cocteau dans le chant poétique, mais aussi chorégraphique, dans le ballet, dans la musique, avec le groupe des Six, lui semble une chose qu'il a dépassée, lui. Complètement dépassé. Donc je dirais Cocteau devient lui-même, mais un mauvais lui-même. Cocteau était un jeune et beau lui-même, brillant, doué, donc un lui-même surévalué. Au temps de la deuxième partie, après 1918, en tout cas, Cocteau devient le mauvais lui-même, celui qu'il a abandonné derrière lui et qu'il accuse de dispersion, de mondanité, de snobisme, tout défaut qui était indéniablement aussi ceux du premier Proust.
Pour retracer le mouvement, des liens entre Proust et Cocteau, vous commencez par donner un double portrait, celui de Proust et celui de Cocteau. Alors Proust, pour vous, en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé qu'une seule personne, sa mère.
Alors là aussi, on va un petit peu simplifier, mais on peut se demander si effectivement tous ces modèles, toutes ces relations affectives ne sont pas des formes de déclinaison insatisfaisantes, frustrantes de ce rapport initial, qui lui-même était déjà très frustrant, hein, puisque tout le ressort, entre autres, d'une, aussi qu'on retrouve dans le narrateur, qu'on ne doit pas confondre avec Proust, mais qui néanmoins... qu'on a du mal à complètement séparer de lui, est évidemment la quête de ce baiser salvateur avant la recherche du sommeil. Oui, on peut dire que c'est une quête, évidemment. C'est pour ça aussi que Proust est un vivier pour la psychanalyse, est un trésor à la fois pour l'université et la psychanalyse. C'est qu'il y a cette espèce de dépendance et de demande d'une relation d'amour total, complètement comblante, gratifiante à tout instant et à tout propos, qui a été à la fois le ressort de sa vie et le malheur de sa vie réelle, et qui l'a acculé de cette façon à trouver une place dans la littérature où il arriverait à retrouver cette totalité qu'on peut dire, voilà, le rapport à la mère n'avait même pas su lui donner.
Il est trop, hein, dites-vous.
Il est trop, oui. Il y a quelque chose de trop. Et tout est trop chez Proust. Sa demande est trop. Et du coup, évidemment, tout le monde... On peut dire globalement, tout le monde la fuit assez vite. Parce que c'est trop de demandes égale à moins d'offres. C'est une loi.
Alors pour Cocteau, c'est tout à fait différent. D'abord, le milieu social.
Alors, je dirais que c'est pas totalement différent dans la mesure où Cocteau aussi est un fils à sa mère et aussi avec un rapport à la demande qui est très fort, où tout le temps il est en demande d'amour, d'appréciation, de réconfort, d'applaudissement, et c'est ce qui va faire aussi sa très grande fragilité parce que cette demande-là, il n'arrivera jamais à la surmonter complètement. Contrairement à Proust qui, à partir du moment où il trouve cette place dans cette œuvre, cette vie étrange et fantomatique est sauvée. Non, ils se ressemblent encore sur cette dimension-là. Je pense qu'il y a... Ils se ressemblent beaucoup. Je pense que ce qui vraiment les distingue, c'est la résolution à travers l'œuvre et le salut à travers l'œuvre. Là, ils ont vraiment deux politiques exactement aux antipodes. Et je pense que l'imaginaire de Proust est encore marqué, parce qu'il a 20 ans de plus, par cette culture française d'origine royale, catholique, très centralisée, où on doit faire un roman monde avec, d'une certaine façon, une figure centrale qui serait comme dans Saint-Simon. Un roi, sauf qu'il n'y a plus de roi en France, mais qui s'organise comme ça. Et la cathédrale, on peut dire, comme la cathédrale s'organise autour de Dieu. Cocteau, lui, n'a plus du tout ce système de référence. Et vraiment, quand il bascule dans la modernité, là-dessus, sa bascule est totale.
Comment se sont-ils rencontrés, ces deux-là?
Alors, ils se sont rencontrés à travers un petit groupe d'amis de Proust, qui était un petit groupe d'admirateurs qui vraiment considéraient qu'il était un génie, alors même qu'il n'avait pas même commencé d'écrire la recherche, qui sont Reynaldo Hahn et Lucien Daudet. Donc, Lucien Daudet, qui était le fils de l'auteur des Lettres de Montmoulin, et qui était de Reynaldo Hahn, excellent musicien, pianiste et chanteur, et Lucien Daudet, une sorte d'esthète, comme ça, de proto-écrivain, de proto-peintre. Et qui tous les deux avaient repéré le jeune Cocteau et à juste titre avaient pensé qu'il était tout à fait fait pour le monde proustien. Et il a été fait pour le monde proustien, indéniablement.
Tous les deux, d'ailleurs, d'emblée, eurent la chance de se faire rire aux larmes.
Oui, ça c'est, je pense que c'est une dimension très forte de leur relation, de leur amitié. Et c'est une chose sans doute que, bon, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais ils ont énormément ri parce qu'ils avaient tous les deux ce pouvoir d'imitation, pas seulement littéraire, mais aussi gestuel, qui était extrêmement comique. Proust faisait des imitations géniales de Montesquieu, qui était évidemment une de leurs références communes, et on le sait, est en partie... une des sources du personnage de Charlus. Et Cocteau avait aussi ce don fantastique d'imitation vocale. Il a d'ailleurs fait toute sa vie d'extraordinaires imitations de Proust. Et donc, c'est un jeu de miroir imitatif entre les deux. Et Cocteau, encore après qu'il se soit séparé, imitait Proust dans son dos, ce qui d'ailleurs lui a valu régulièrement des scènes de ménage, si on peut dire, de la part de Proust, qui était à la fois extrêmement drôle et extrêmement susceptible. Donc il y a vraiment plusieurs jeux de miroir entre eux, humains, littéraires, oui, à la fois quant à leur personnalité et quant à leur esthétique.
Proust, en tout cas, c'est un des premiers à percevoir le malaise existentiel de Cocteau.
Oui, alors c'est là où je trouve qu'il finit par être injuste à la fin, parce qu'il a senti très vite la richesse de Cocteau, il a senti très vite que, au-delà de la facilité, de la mondanité, qui sont évidentes et presque d'une certaine façon écrasantes chez Cocteau, il y a quelqu'un de très douloureux, il y a quelqu'un d'hypersensible, comme lui, comme Proust. Il y a quelqu'un qui a, d'une certaine façon, un monde presque trop large pour sa physiologie trop frêle et trop nerveuse. Mais là aussi, Proust comprend très bien ça. Et donc, il sait très bien quelle richesse cache ce très jeune poète. Et je pense que là, il y a à la fin, il y a une sorte de vengeance et de cruauté. Ma thèse, c'est que, d'une certaine façon, Proust se venge du jeune Proust qui a perdu tout ce temps. Avant de se trouver littérairement à travers Cocteau. Et là encore, il y a un jeu de miroir dans le temps, de miroir trompeur, disons.
À cette époque-là, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de SMS, donc on s'envoyait des lettres. Ils se sont écrits, ils se sont beaucoup écrits, mais la correspondance a disparu.
Alors, la plus grosse part a disparu. Cocteau était très généreux, Cocteau ouvrait sa porte à tout le monde, beaucoup de gens se sont servis, beaucoup, il a offert beaucoup de lettres ici ou là, mais le plus grand responsable, c'est Boris Sachs, qui a donc été un peu, qui a joué un peu auprès de Cocteau, un peu le rôle que Cocteau avait joué auprès de Proust, donc il était là, il venait voir Cocteau, il a eu un sentiment sans doute très fort pour Cocteau, sentiment qui n'a pas été, qui n'a pas trouvé de réponse, et il y a eu des formes de vengeance là aussi et des vols, même un véritable pillage de la part de Sachs. Alors qu'est-ce qu'il a fait de ces lettres? On ne sait pas. Est-ce que c'était une telle quantité? On a du mal à le dire parce que Cocteau a certainement reçu beaucoup de lettres de Proust, mais effectivement une bonne partie a disparu. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que Cocteau s'est laissé voler et à plusieurs reprises par Maurice Sachs. Alors est-ce que c'était pour payer, est-ce que Sachs qui était chargé de le ravitailler en opium à l'époque où il se droguait énormément, est-ce qu'il n'y avait pas un arrangement financier derrière tout ça? On a du mal à dire, ça je pense ça restera flou jusqu'au bout, mais le fait est que Cocteau n'a pas vécu ça comme une immense perte, parce qu'il en était venu à douter de l'amitié de Proust. Et c'est vrai que Proust lui-même, et la recherche le dit en long et en large, Proust en est venu à douter non seulement de l'amour, mais de l'amitié. L'amitié, à la fin, il dit, ça n'a aucune importance, c'est d'une fadeur totale, ça n'existe pas. C'est comme un fou, être l'ami de quelqu'un, c'est comme un fou qui s'attacherait à des meubles. Il a des phrases terribles de ce point de vue-là. Et d'une certaine façon, Cocteau l'a ressenti dans sa chair, parce qu'il a bien vu l'éloignement de Proust, et il a bien vu aussi, à travers le personnage d'Octave, qui est le personnage qu'on s'entend classiquement à définir comme inspiré par Cocteau, et qui est d'ailleurs l'anagramme quasi exact de Cocteau. Le personnage d'Octave est un personnage même pas mineur, mais minuscule, de gommeux, de jeune fils à papa, qui finalement, à la surprise générale de tout le monde et du narrateur lui-même, se révèle à travers des petites pièces inspirées des ballets russes par montrer une sorte de génie, mais des toutes petites pièces.
Alors, dans Proust contre Cocteau, Claude Arnault, on rencontre évidemment toutes sortes de célébrités de l'époque que vous évoquez, par exemple la comtesse de Chevigné.
Oui, alors
Né Sade.
Oui, Né Sade, oui, Né Lord de Sade. Bon, c'est un personnage du Paris fin de siècle, 1900. Qui est une aristocrate à la voix d'homme, comme ça, à la voix de caporal, qui fume du tabac noir, qui est rude, quoi, rugueuse, qui est un excellent fusil, qui part chasser régulièrement le week-end, et qui a suscité une sorte de passion invraisemblable, mais extrêmement constante de la part du tout jeune Marcel Proust, jusqu'au très vieux Marcel Proust, enfin très vieux, Marcel Proust finissant. Ce qui n'est pas mort très vieux, mais et qui en même temps a su se rendre inaccessible à Proust. En tout cas, elle a toujours tenu à distance, à l'écart, et a reçu des dizaines, des centaines de lettres, de déclarations, de demandes de précision sur ce qu'elle faisait, sur les chapeaux qu'elle portait à telle époque, et évidemment est devenue un élément central, puisqu'elle a en partie inspiré la comtesse de Guermantes. Donc il y a la duchesse de Guermantes, pardon. Donc il y a une espèce de fixation proustienne sur ce personnage féminin qui est évidemment d'autant plus désirable qu'elle est en partie inaccessible, qu'elle se dérobe à lui et qu'il essaye de circonvenir à travers ses domestiques qu'il paye pour avoir des renseignements sur sa vie personnelle, sur sa façon d'être, sur... Et par un étrange hasard, il se trouve que la Cocteau, qui vit encore avec sa mère, il a 21 ans, s'installe dans le même immeuble que cette comtesse de Chevigny. Et tout d'un coup, a un accès extrêmement facile, parce que tout simplement, de proximité locative avec cette femme. Et donc devient assez proche de cette femme, ce qui crée au départ chez Proust des espérances démesurées de rapprochement. Et puis très vite, la comtesse de Chevigny est maintenant toujours une sorte de porte fermée à l'égard de Proust, une jalousie extrêmement puissante. Et la peur, alors ça c'est une dimension du livre qu'on peut-être on aura deux minutes pour évoquer, mais la peur terrible que Cocteau ne révèle des choses sur Proust à son tour. Car Proust était extrêmement demandeur de renseignements, de secrets d'alcôve, de potins, mais extrêmement hostile à toute divulgation à son propos. Ça va être un casus belli aussi très important entre les deux hommes.
Comment vont évoluer leurs relations à l'occasion de la publication des différents volumes de La Recherche depuis du côté de chez Swann?
Alors la relation évolue par une sorte d'éloignement progressif. Cocteau est un des cinq premiers critiques à saluer la publication du premier tome en 1913 et donc à vraiment là être à dire très clairement c'est une œuvre extrêmement importante qui commence. Il n'a aucun doute là-dessus. Il est extrêmement enthousiaste, il est extrêmement chaleureux et il va contribuer beaucoup à rapprocher Proust de la maison Gallimard qui avait refusé de façon extrêmement cuisante le manuscrit de La Recherche. Plus cette recherche va apparaître au grand jour, plus et après surtout que la maison Gallimard eut récupéré Proust, la relation va se dégrader. Sans doute en partie parce que Proust ne fait pas tout ce qu'il aurait pu faire pour que Cocteau le suive chez Gallimard, ce qui était le souhait de Cocteau. Et sans doute aussi parce que Cocteau voit bien que cette œuvre immense, cette œuvre énorme, il en manque sans doute, c'est là sa limite. Il manque évidemment, il faut le comprendre aussi, il voit les tomes paraître de deux ans en deux ans, et il avait eu déjà des lectures complètement désordonnées, parfois extrêmement brouillonnes, et qui, je pense, sont très comiques, puisque là, il avait ce don-là de rendre aussi le comique de Proust, mais il avait été un peu le cobaye de Proust dans ses lectures Boulevard Haussmann. Donc, il a eu La Recherche dans le désordre, il l'a vu sortir trop tôt, puis après trop fractionné, trop lentement. Donc il a eu une perception extrêmement diluée, on peut dire, de cet ensemble. Donc il n'a pas du tout lu le même livre que nous, de cette façon. Hein. Il a lu des ébauches, il a lu des épreuves, puis il a lu... Et plus ça allait, plus il avait du mal à considérer ce narrateur autrement comme une simple transposition littérale de Marcel Proust qu'il avait connu. Et là commence un vrai divorce qui est grave, qui est lourd, qui est plein d'enjeux littéraires pour nous aujourd'hui à l'époque de l'autofiction, puisque indéniablement Proust crée un narrateur qui, par certains côtés, n'est pas du tout lui, qui n'a pas sa sexualité, qui est simplement catholique, alors que Proust est certes catholique de confession, mais avec une mère juive, un narrateur qui n'est pas asthmatique, on sait que ce n'était pas le cas de Proust, qu'il l'était. Donc il y a tout un tas de choses qui divergent entre les deux personnages, et Proust ne raconte pas sa vie. Proust crée indéniablement un roman, ça c'est très très clair. Et Cocteau a du mal à comprendre ça, et Cocteau... Et pour une raison que je pense très compréhensible, très humaine, et qu'on doit prendre en compte, c'est que ce masquage de son homosexualité à travers le narrateur, Proust l'a pratiqué toute sa vie, dans sa vraie vie de vrai Marcel Proust. Et Cocteau était aux premières loges, puisque la hantise de Proust, c'était qu'il confirme la comtesse de Chevigny dans ce qu'elle avait sans doute compris, dans le fait que Proust était homosexuel, ce qu'il ne voulait absolument pas qu'on dise et qu'on sache. Donc Cocteau, de cette façon, est sur la lancée de cette cachotterie fondatrice, qui est très importante, qui a fait faire des duels à Proust, qui a fait faire des, oui, par moments, on peut dire des sortes de folies à Proust, de dénégations, de mensonges, et qu'il continue de voir à l'œuvre dans le livre. Et là, on peut donner raison à Cocteau, même si on doit lui donner tort sur son incapacité à comprendre que Proust essaye aussi de s'universaliser à travers ce narrateur qui n'a pas de nom propre, qui n'a pas de prénom, sauf deux fois où on cite le prénom de Marcel. Évidemment, ce n'est pas par hasard, mais quand même, il y a quand même une volonté de s'universaliser, de devenir personne, de toute façon, de devenir une sorte de vecteur d'un immense roman, mais qui n'est pas l'autobiographie de Proust, ni même transposée.
Comment Cocteau a-t-il réagi à la mort de Proust ?
Il est venu tout de suite boulevard Haussmann. Il y a une admirable description de l'appartement qui, pour la première fois qu'il voyait avec les volets ouverts, il était constamment volet clos, sans fumigation, sans poudre le gras, sans produits anti-asthmatiques, sans fouilles de la part de Céleste Albaret, car il ne devait emporter ni parfum, ni fleurs, ni quoi que ce soit qui aurait pu irriter Proust. Et tout d'un coup, cet appartement lumineux et ce Proust transfiguré et qui est devenu, qu'il décrit comme une espèce de vizir d'Haroun al-Rachid avec sa barbe noire. Il y a des photos magnifiques de Man Ray que Cocteau avait amené sur place qui confirment cette impression. Donc il y a une impression, oui, quand même impériale, oui, réellement impériale. Il sait qu'un immense, quelque chose d'extraordinaire s'est passé là, et évidemment la concomitance avec le quasi point final mis à la recherche l'avant-veille, avec quelque chose de strictement fascinant. Il est là aux obsèques, il est là à tout ce moment-là, il suit ce moment-là, et d'ailleurs à ce moment-là, Gallimard le récupère, comprend qu'effectivement Cocteau était complètement dans le monde de Proust, c'était une pièce très très importante et non pas une pièce marginale.
Si on considère aujourd'hui, 100 ans après, la fortune de l'œuvre de Proust, on peut dire que le sacrifice, vous parliez tout à l'heure de sacrifice, s'est avéré payant.
Oui, c'est un sacrifice absolument payant, mais évidemment parce qu'il y a une œuvre gigantesque et qui résiste à toutes les analyses, les interprétations et les contre-interprétations, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, cette aura... ce sacrifice ultime qui, du coup, a mis la barre très très haut pour les écrivains et qui, en même temps, fait que Proust est aussi, pour les écrivains, un très grand modèle et aussi une source d'angoisse et une source terrifiante, d'une certaine façon, parce que ce que nous dit Proust, c'est « tourne toute ta vie en encre, tout ton sang en encre et meurs à la fin. Et là, tu auras prouvé que tu es un écrivain. Et le reste du temps, tu n'es qu'un Cocteau, au mieux. » C'est-à-dire que tu n'es qu'une créature qui se disperse de livre en livre, d'émission en émission, mais qui n'est pas fondamentalement prêt au sacrifice suprême. Et évidemment qu'il est forcément, je dirais, un modèle et un ennemi. C'est comme ça que je le vis et je le dis à la fin du livre. Et on peut évidemment masquer ça en ne parlant que d'admiration. Mais il est aussi un ennemi dans la mesure où il a comme épuisé le roman romanesque à base historique qu'on a hérité du 19e siècle, mais aussi toute l'entreprise autobiographique qui est comme de toute façon coiffée d'avance par cette réussite extravagante.
Mais une consolation pour Cocteau, avoir vécu pleinement.
Il a eu des amants, il a même eu des maîtresses, il a vu quelque chose du monde. On peut dire que Proust, à un moment, ne voit plus rien. Ne voit plus rien que sa propre œuvre. Et c'est à la fois admirable et il y a quelque chose de terrifiant, il faut le savoir. Il y a quelque chose de terrifiant chez Proust, il y a quelque chose de monstrueux chez lui.
Proust contre Cocteau. Le livre de Claude Arnault est publié chez Grasset. Du jour au lendemain, Benjamin Vignal, Anne Frankeni, Didier Pinault, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.